mouche, pour se développer, pond des œufs. Ces œufs vont être transformés après incubation, donc en larves. Puis ces larves vont se transformer en pupes. Et au bout de X jours, eh bien, vous aurez des nouvelles émergences de la mouche.
Pour contacter l'émission en direct, notre site internet impatience.rsr.ch ou par SMS au 939 en commençant votre message par « science ».
Daniel Chérix, vous êtes conservateur du musée de zoologie de Lausanne. Vous allez passer cette heure en notre compagnie pour parler de la mouche. La mouche, elle est sur cette petite planète bleue depuis longtemps?
Oh oui, probablement une très très longue histoire, parce que c'est vraiment en dizaines de millions d'années que
les mouches... Avant les dinosaures...
Disons, elle a bien connu les dinosaures.
Mm-hmm. Oui. Et elle nous survivra?
Oh oui, alors elles nous survivront avec beaucoup d'autres espèces d'insectes, mais en fait elle a toutes ses chances, surtout si la planète se désintègre ou dégrade de la manière dont on le voit aujourd'hui.
Et est-ce qu'elle s'adapte bien?
Fort bien, puisque une des espèces qui est la mouche bleue, cette fameuse mouche à viande, vous la trouvez sur toute la planète. C'est quand même extraordinaire.
Et le réchauffement climatique pour elle?
Aucun souci. Elle ira simplement un peu plus haut parfois, mais elle résistera à tous les climats.
Ce qu'elle fera avec certitude, Nathalie Boujard, c'est se reproduire avec bonheur.
Avec bonheur et avec beaucoup de codes et de sophistiques, de manière très sophistiquée, puisque la parade nuptiale de la mouche est très élaborée. Elle dure une bonne minute, elle permet au mâle quand même accessoirement de savoir s'il a bien affaire à une femelle, si elle est de son espèce aussi. Bref, des informations qui peuvent quand même être utiles avant de s'échiner à faire le beau. Bon, tout ça reste très très vague, donc on va aller voir Virginie Nepoux, doctorante au laboratoire d'écologie et d'évolution à l'Université de Lausanne, et elle va nous expliquer comment ces mouches s'y prennent.
Un mâle et une femelle, quand ils se rencontrent et que le mâle décide de faire la cour à la femelle, il va suivre vraiment une séquence qui est toujours la même, où d'abord il va s'orienter par rapport à elle, de façon à se faire voir. Il va chanter en tendant une aile et en la faisant vibrer à une fréquence qui est vraiment spécifique. Donc chaque espèce de drosophile a sa vibration à elle. Il va toucher la femelle avec ses pattes parce qu'il a des capteurs gustatifs sur les pattes, ce qui va lui permettre en fait d'analyser toutes les molécules qui sont à la surface de la cuticule de la femelle, donc sur son abdomen, tout ça. Donc lui, il va analyser ces molécules qui sont elles aussi spécifiques. Donc chaque espèce a ses molécules, celles du mâle sont différentes de celles de la femelle, donc comme ça il s'assure que c'est bien une femelle aussi au passage. Il va la lécher aussi, oui, c'est très intéressant la vie sexuelle des mouches. Et puis une fois que la femelle est d'accord, parce que la femelle peut très bien refuser, elle est plus grosse que le mâle, si elle n'est pas d'accord, elle peut lui donner des coups de patte ou simplement s'envoler. Et une fois que donc, les deux se sont reconnus et mis d'accord, il peut y avoir un accouplement. Mais d'abord, il y a toute cette danse qui peut, parfois ça peut être très court, mais ça dure ouais, en moyenne au moins une petite minute pour les plus pressés.
Et les plus longs?
Mais après, en fait, c'est une répétition. C'est-à-dire que le mâle va insister, il va suivre la femelle et puis il va continuer à chanter pour vraiment insister, comme ça, se faire voir et puis courtiser.
Et donc, par exemple, quand il fait vibrer son aile, ça fait quoi comme son, à peu près? Ça fait vraiment un chant? Ça fait bzzz? Ça fait quoi?
Ouais, ça fait une vibration comme ça, mais en fait, ça fait des petits pulses de bzzz. Et puis, il y a l'intervalle entre les pulses qui est très important. C'est un intervalle qui a une durée vraiment spéciale.
Et donc, ces différentes stratégies, en fait, lui permettent de reconnaître si c'est une femelle, d'une part, si elle est de la même espèce... Et si elle lui plaît.
Et voilà, exactement. On suppose même qu'il peut y avoir des reconnaissances comme ça, de population, ce qui permet d'étudier un petit peu les phénomènes de spéciation. C'est-à-dire qu'on peut poser des questions, comment est-ce qu'un mâle reconnaît une femelle et finalement choisit de s'accoupler avec elle et vice-versa. Et puis essayer de voir à partir de quel moment est-ce qu'ils vont commencer justement à moins vouloir s'accoupler avec des individus d'une autre population. Combien de temps est-ce qu'il faut qu'ils aient été isolés?
Et donc là, on parlait du mâle qui donc goûte, chante pour la femelle, etc. La femelle, elle fait quoi pour se décider si le mâle lui convient, s'il est de la même espèce?
Elle écoute le chant déjà. Et puis le mâle lui envoie aussi des phéromones plus volatiles.
Comment elle sent les phéromones, la femelle? Elle les capte comment? Avec quoi?
Les antennes, surtout. Les odeurs sont captées surtout par les antennes.
Est-ce qu'on sait déjà pourquoi une femelle va préférer plutôt un champ qu'un autre et donc se décider pour un mâle de la même espèce plutôt qu'une autre espèce?
Alors ça, c'est génétiquement déterminé, au moins en grande partie. C'est une question intéressante parce qu'on pourrait imaginer deux hypothèses. Soit que ce soit quelque chose d'appris, c'est-à-dire qu'une femelle émergeant donc de sa pupe, une toute jeune femelle juste émergée, entendent des mâles autour d'elle et puis apprennent en fait à reconnaître ces mâles et puis se disent après bon bah ça c'est ce que je recherche, c'est ce que j'aime parce que je l'ai entendu toute ma vie. Et puis une autre hypothèse qui serait à l'opposé, qu'une femelle a une préférence vraiment innée de naissance pour un type de chant. Quand on prend des femelles à la naissance et puis qu'on les élève seules, on voit clairement qu'elles ont aussi une préférence pour un type de chant. Donc il y a au moins une très grande partie là qui est juste une préférence innée.
Merci à Virginie Népoux, doctorante au laboratoire d'écologie et évolution de l'UNIL.
Infotrafic, RSR.
Un bouchon est en formation sur l'autoroute Lausanne-Vevey entre les jonctions de Belmont et de Chèbre en direction de Vevey. Deux véhicules sont entrés en collision dans une zone en chantier. Daniel Chérix en notre compagnie pour parler de la mouche. Que nous apprend l'étude des comportements sexuels des mouches?
Alors ça apprend beaucoup de choses parce qu'il faut savoir que chez les mouches, on a une quantité de ravageurs et des ravageurs qui s'intéressent à nos cultures. Par conséquent, on peut trouver des solutions pour éviter l'utilisation d'insecticides et faire des leurres, faire des pièges. On attire les mâles à un autre endroit, les femelles à un autre. Donc en fait, la connaissance du comportement sexuel est fondamentale puisque s'il n'y a pas de reproduction, on a bien sûr toujours la possibilité de se reproduire sans mâles. Ça existe parfois, mais heureusement, chez les mouches, c'est pas trop développé. Donc c'est vraiment utile. Je dirais, il y a une application qui est tout à fait direct.
On cherche à les séparer et non pas à les stériliser.
Alors oui, il existe une technique. Rappelez-vous, il y a bien des années, la Libye était très connue pour une chose, c'est qu'il y avait une espèce de mouche qu'on appelle le Cochiomyax omnivorax, qui était une mouche très dangereuse puisqu'elle s'attaque à la fois aux gens et au bétail. Et on avait très peur qu'elle vienne en Europe, en tout cas en Espagne. Donc on a engagé des millions, mais les millions ont servi à lâcher des mâles qui étaient stériles, qu'on avait stérilisés avec du cobalt radioactif. Et en fait, grâce à ces millions de mâles qui ont été lâchés, il ne s'est rien passé, les populations sont éteintes et on a évité ce problème qui est un problème quand même majeur. Les mouches causent quand même pas mal de problèmes sur notre planète.
Est-ce qu'elles s'épousent entre espèces? C'est-à-dire si par malheur je rentre avec une mouche dans mes bagages, est-ce qu'elle pourrait survivre?
Oui, enfin, on imagine toujours des tas de choses.
Bon, oui,
pour qu'elle survive, il faudrait quand même ramener au moins un couple. Et on sait.
Non, mais justement, ma question, c'est est-ce que une mouche qui vient d'Afrique pourrait s'accoupler avec une mouche d'ici?
Je dirais à ce stade, je ne pense pas. La séparation entre espèces est bien forte. Mmh.
Sarah Dirène, les mouches nous disent mais plein de choses à condition de savoir bien les observer.
Oui, on peut les faire parler, elles peuvent être auxiliaires de police,
et se
par
reproduire.
Exemple. Voilà, les mouches permettent de dater les cadavres, pas n'importe quelle mouche, des mouches nécrophages qu'on va prélever sur des cadavres, sur des lieux de crime, on appelle cela l'entomologie forensique, et un des pionniers en Suisse à en avoir fait de l'entomologie forensique, c'est Claude Wyss, c'était déjà au début des années 90, collaboration évidemment précieuse avec notre invité Daniel Chérix. Du reste, ils ont publié ensemble en 2006 un traité d'entomologie forensique, Les insectes sur la scène de crime, paru aux presses polytechniques et universitaires romandes. Alors aujourd'hui, Claude Wyss est un jeune retraité de la police de sûreté vaudoise. Il a vraiment beaucoup travaillé pour l'identification judiciaire. Les mouches ont vraiment été des alliés de taille pour résoudre certaines énigmes ou surtout pour dater le jour de la mort d'une personne. Un exemple que Claude Wyss me donnait. Il y a quelques années, un corps avait été retrouvé dans le canton de Fribourg. C'était au mois d'octobre que le corps avait été retrouvé. Et Claude Wyss trouve sur le cadavre des mouches africaines. Ce qui prouvait finalement que la mort remontait en tout cas au mois d'août, période de la migration de cette espèce de mouche africaine. Alors vous imaginez, hein, des histoires, Claude Wyss en a en pagaille, c'est un passionné. Je vous propose de nous rendre chez lui. Devant nous, nous avons des planches de collection avec des mouches nécrophages. Il y en a de différentes espèces, des mouches prélevées sur des lieux de crime. Des mouches, bien sûr, qui n'ont rien à voir avec celles que vous avez dans votre cuisine.
Les mouches nécrophages, ce sont les mouches qui se perpétuent sur des cadavres. Ce sont des cadavres d'animaux, des cadavres d'oiseaux, des cadavres de reptiles et puis évidemment des cadavres humains. Donc on a 3, 4, 5 espèces qui peuvent arriver dans les minutes, voire les heures qui suivent la mort.
Comment font-elles pour savoir qu'il y a un cadavre ?
Eh bien écoutez, elles ont des organes chimio-récepteurs qui leur permettent de découvrir évidemment des endroits importants pour elles, puisque ce sont des endroits où elles vont se perpétuer. Alors, si vous voulez, les mouches, d'une part, font leur repas protéinique pour pouvoir devenir adultes sexuellement, et puis par la suite, eh bien, les mouches femelles viennent sur le cadavre une deuxième fois pour commencer à pondre leurs œufs. Bon, une mouche nécrophage de nos espèces locales a environ une 150aine d'œufs. Elle les dépose à raison de 20-25 œufs par fois et ceci peut durer un ou deux jours, voire un peu plus. Ces œufs vont incuber un certain temps et puis vont donner naissance à des larves. Et ces larves, pour se nourrir, eh bien, vont manger le substrat, c'est-à-dire les chairs en putréfaction.
En quelques jours, elles peuvent dévorer un petit cochon de 40 kilos ?
Oui, 30-40 kilos, il faut compter 3 semaines. Si les conditions, évidemment, météorologiques sont suffisantes et correctes.
Lorsque vous arrivez sur le terrain, sur un lieu de crime, qu'est-ce que vous faites ?
Alors, lorsque j'arrive sur une scène de crime, eh bien, on va ramasser ou récolter le matériel entomologique. Alors, le matériel entomologique, ce sont des œufs, ce sont des larves, ce sont des prépupes, ce sont des insectes qui volent encore à l'endroit où on a découvert le cadavre. Et tout ce matériel est récolté. Le matériel vivant est mis en collection ou est mis en élevage, ceci pour les œufs, les larves et les pupes. Et puis, ce matériel mis en élevage, eh bien, on va attendre d'avoir les nouvelles émergences de mouches. Tout ça est noté, protocolé, telle façon à ce qu'après, on puisse éventuellement faire une datation de ce cadavre. À savoir, on va travailler sur le premier cycle de la première mouche qui vient sur les lieux pour déposer ses œufs. Je m'explique. Une mouche, pour se développer, pond des œufs. Ces œufs vont être transformés après incubation donc en larves. Puis ces larves vont se transformer en pupes. Et au bout de X jours, eh bien, vous aurez des nouvelles émergences de la mouche. On va travailler donc sur ce cycle en sachant que chaque espèce de mouche a un cycle propre, à savoir qu'elle se développe par rapport à un montant de température jour. Si on prend l'exemple, par exemple, de Califora vicina, il lui faut 380 degrés de jour de température pour se développer de l'œuf à l'insecte parfait. Après, eh bien, il suffit de demander à l'Institut de météorologie à Zurich des relevés météo pour un mois, en principe, des stations météorologiques qui sont à proximité de la scène de crime, de faire nos propres calculs sur la scène de crime en déposant un thermographe, par exemple, Et puis, lorsqu'on a les éléments de température qu'il y a eu sur les lieux, les éléments de température que nous avons eus lors des élevages, eh bien, nous pouvons, grâce à la méthode de Marchenko, remonter, si on veut bien, dans le temps, de telle façon à avoir le jour de la ponte des œufs de la mouche. Donc, comme on a le jour de la ponte, normalement, il doit correspondre au jour de la mort à plus ou moins 24 heures de la personne.
Mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, Claude Wyss, c'est que on n'identifie jamais une larve sur le lieu du crime. Il faudra, quoi qu'il arrive, attendre une trentaine de jours, avoir le cumul de la température, 350 degrés, par exemple, pour telle espèce de mouche, pour pouvoir dater le moment de la mort.
Oui, alors, les Américains, par exemple, ont daté les larves de mouches, à savoir par le poids et par la longueur. Et on s'est rendu compte que ça ne correspondait pas à la réalité et qu'il fallait travailler sur tout le cycle de la mouche pour pouvoir donner un chiffre exact par rapport à la ponte.
On dit que, d'une manière générale, les mouches ne pondent pas la nuit, en tout cas dans l'obscurité, qu'elles pondent en dessus de 12 degrés. Donc ce sont des facteurs quasi infaillibles, car il y a eu des contre-exemples.
Oui, alors, que les mouches ne pondent pas la nuit, c'est très vraisemblablement le cas sous nos latitudes. Par contre, qu'elles pondent jusqu'à 10 heures le soir en été, ça c'est clair et net, elles pondent jusqu'à ce moment-là. Et puis le lendemain, elles vont commencer à pondre vers 9 heures du matin, lorsque le soleil est bien là. Maintenant, en dessous de 12 degrés, les mouches nécrophages ne pondent pas. C'est inexact, puisque nous avons deux cas. Le premier, c'était une personne qui est décédée dans un opposieux, dans le Jura, et où nous avons fait une expérimentation, et nous pouvons dire que les mouches sont descendues à moins 10 mètres, à une température constante de 5 degrés et dans l'obscurité totale. Les œufs qui ont été récoltés ont été mis en élevage et puis nous avons eu des mouches qui en sont sorties. Et une deuxième expérience, ce sont des cadavres qui ont été découverts dans un névé et à entre 0 et 2 degrés. Et là, nous avons découvert des œufs de mouches qui ont été également mis en élevage viable puisque nous avons eu deux espèces qui ont émergé.
À voir les films, je pense aux experts, Claude Wyss, vous ne levez pas les yeux, on dit toujours que se succèdent sur un cadavre des mouches, il y a un ordre chronologique. Est-ce le cas ?
Mais écoutez, en 1894, Pierre Ménien parlait des escouades, à savoir qu'effectivement, les mouches arrivent par vagues, ou les espèces de mouches arrivent par vagues, selon le substrat qu'elles rencontrent. Encore une fois, avec Daniel Chery, on a essayé de voir s'il y avait quelque chose de valable dans cette théorie, et on s'est rendu compte que non, les escouades n'existent pas en tant que telles.
Quel est l'avenir selon vous ? Alors, vous êtes peut-être très mal placé, Claude Wyss, pour le dire, mais quel est l'avenir aujourd'hui en Suisse de l'entomologie forensique ? Vous avez créé des émules ?
J'ai rien créé du tout. J'ai eu un collègue qui a travaillé un certain temps avec moi sur ce problème, et malheureusement, il n'a pas continué. Bon. D'abord, je pense qu'il faut aimer le monde des insectes. Les mouches, il n'y a rien de ragoûtant. On a plus envie de prendre la tapette et puis de les écraser que d'étudier finalement un petit peu leurs us et coutumes et leurs mœurs. D'autre part, eh bien, ce travail d'entomologie forensique se fait sur des scènes de crime, se fait évidemment avec des personnes décédées qu'on retrouve après plusieurs jours dans des appartements à l'extérieur, etc. Donc, rien de ragoûtant. Alors, si vous mettez l'amour de la nature, des insectes, des mouches, et puis la passion dans le travail, vous trouverez peut-être un nouvel entomologiste.
Avis aux amateurs. Merci beaucoup, Claude Wyss. Claude Wyss parlait d'une personne avec laquelle il a étroitement collaboré qui s'appelle Daniel Chéry. C'est vous, Daniel Chéry, que ça...
Ça doit être moi, oui. Oui,
mais comment est-ce que on doit vous appeler?
Alors, il y a la façon locale qui est plutôt Chéry, puis la façon, on va dire, radiophonique dans le sens où les gens estropient mon nom en oubliant le X qui est fondamental, donc Chéryx.
Chéryx. On a entendu que les mouches ne pondent pas la nuit, mais que font-elles?
Alors, elles se reposent, disons. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'on pense toujours que les insectes sont toujours très actifs, etc. Non, la nuit, vous avez des moustiques chez vous actuellement qui vont faire bzzz, qui vont vous déranger, mais les grosses mouches, elles vont se reposer. Donc, il y a une bonne partie de leur temps qui est inactif.
Elles dorment longtemps?
Oui, elles dorment longtemps. En fait, elles sont inactives, c'est simplement la quantité de lumière perçue par leurs yeux à facettes qui va être le déclencheur d'activité.
Elles dorment combien de temps?
Bon, dire, mais
on
non,
pourrait, par exemple, les empêcher de dormir, elles mourraient.
Elles vont mourir un peu plus vite, mais la durée de vie du mouche nécrophage n'est pas si longue que ça. C'est l'espace environ de un mois, pendant lesquels elle va pondre entre 200 et 800 œufs. Ça dépend des espèces.
Et combien de larves sur un cadavre?
Oh, on peut arriver à 1 à 2 millions, si le cadavre était bien placé, c'était à bonne saison, donc c'est assez étonnant, et puisqu'il ne va pas rester grand-chose.
Donc elle nettoie les indices.
Oui, mais bon,
heureusement qu'elle reste elle pour être quelques preuves.
Exactement.
Peu fier en somme de suivre la filière dont tu naquis. Petit homme par étrange bizarrerie, de mère nature, de maman Lucie, j'étais bonobo, clamala bonobo, pas peu fier en ça de suivre la filière. Mes cousins masculins, féminins. Je me demande, soupire le bonobo, si ça valait la peine de se donner tant de peine pour que votre race guerrière, incendiaire, carnassière occupe toute la scène.
C'était Bonobo, signé M. Mathieu Chédid.
Les biologistes ont... constater que chez les mouches intelligentes, la plasticité cérébrale était supérieure à celle des mouches dites classiques.
Impatience. Nancy Ypsilantis.
Daniel Chérix, en préparant cette émission en compagnie de Pascaline Minet, on se posait la question de pourquoi les mouches vont toujours sur des choses dégoûtantes.
Alors, seulement une partie des espèces de mouches, puisqu'on a vraiment dans ce groupe des mouches, je vous rappelle, il y a 6500 espèces en Suisse, donc il y a de la diversité. Donc il y a des mouches qui sont vraiment très intéressées par la matière en décomposition. Il y a des mouches qui sont très intéressées par les fromages, qui sont toujours actifs. Je vous rappelle qu'il y a des fromages italiens dans lesquels on a une petite mouche qui s'appelle Pyophila casei, donc qui adore, et c'est que quand il y a les larves qui sautillent que le fromage est bon.
Donc voilà. C'est vrai ça. Je pensais que c'était de l'ordre.
Non. Et c'est vrai que ça donne un tout petit peu plus de protéines au fromage et personne n'en est mort. Voilà.
Et ces mouches qu'elles mangent d'ailleurs du fromage ou des êtres en décomposition, elles ont une drôle de manière de se nourrir aussi.
Oui, alors bon, ce qu'il faut bien savoir, c'est que les mouches, elles ont une digestion un peu extérieure. C'est-à-dire que dans le cas des mouches nécrophages ou des mouches qui se nourrissent de tout ce qui est un peu en décomposition, en fait, les larves vont d'abord extraire des enzymes, avoir un peu craché des enzymes devant elles. Comme ça, ça rend le substrat un petit peu plus accessible. Et puis après, à ce moment-là, elles vont prendre ça, elles vont le digérer.
Et elles ont comment elles font pour repérer, par exemple, ces fromages? Elles ont un système sensitif développé ou...
Alors, la mouche a une antenne qui est, bon, comme la majorité des insectes, vous avez des milliers de senseurs. Donc, vous avez des récepteurs qui sont sur ces antennes, des récepteurs qui sont sur les pattes. Les mouches aiment bien avoir des récepteurs sur les pattes. C'est comme ça, quand elles se posent sur un fromage, sur un morceau de viande, elles savent tout de suite ce que c'est. Parce que vous n'êtes pas facile. Vous imaginez, on a l'odeur de quelque chose, on se rapproche à l'odeur, mais ce qu'il faut, c'est être sûr. Quand on se pose, on peut tout de suite déployer sa trompe et commencer à se nourrir. Donc, elles ont tellement de senseurs que leur univers doit être absolument hallucinant. Sinon, un univers d'odeurs qui est parfait pour se repérer, pour se déplacer.
Donc c'est surtout l'odorat en fait.
Ah bah oui, l'odorat est absolument fondamental.
Et alors comme elles se baladent sur des choses pas forcément très ragoûtantes, elles transportent beaucoup de microbes aussi.
Bah oui, c'est un très bon système, c'est-à-dire qu'elles déplacent beaucoup de choses. Donc c'est vrai que dans les hôpitaux, dans un certain nombre d'endroits, notamment dans tout ce qui est préparation alimentaire, on essaie d'éviter d'avoir des mouches parce qu'évidemment elles peuvent devenir très vite très gênantes et en fait poser des graves problèmes d'hygiène.
Donc c'est pas une légende, elle transporte vraiment des...
Oui, absolument, comme beaucoup d'insectes, hein, que ce soit les mouches, on a les fourmis qui, elles, vont à terre, vont transporter d'autres choses, bactéries ou virus. Les mouches, elles, comme se déplacent encore plus rapidement, donc elles peuvent se déplacer entre les étages d'un hôpital et avoir des conséquences parfois dramatiques.
Ça vole à quelle vitesse?
Alors je dirais les meilleurs, c'est les temps, hein, tout le monde, bon, la saison des temps est passée, mais les temps, on arrive jusqu'à 40-45 km à l'heure, donc c'est une vitesse qui peut tenir très longtemps.
Vous avez parlé de leurs senseurs, de bon, évidemment, on sait la rapidité des mouches, leurs yeux, etc. Elles ont un gros cerveau? Comment est-ce qu'elles traitent toute cette information?
Alors, je veux dire que le cerveau est quand même à passablement de connexion. Alors, ce que vous avez vu, c'est que souvent, les mouches, hein, quand on parle de ces mouches à viande ou de la mouche domestique, vous avez des grands yeux. Donc, ces grands yeux, en fait, il y a un lobe optique qui est très important. Et en fait, après, il y a une intégration qui est étonnante. Mais ce qu'il faut bien savoir, quand une mouche vous regarde, hein, vous avez l'impression qu'une mouche vous regarde, elle vous voit pas très bien, elle est myope. En revanche, quand vous vous déplacez, vous devenez tout d'un coup très net. Parce que ce que les mouches voient, ce que les insectes voient bien, c'est le mouvement. Alors vous êtes d'accord, lorsque vous regardez votre télévision, ce qui doit arriver quand même une fois le soir, on vous passe des images à 25 images par seconde. Donc vous ne voyez pas de saccades. Les mouches voudraient passer le même film à 250 images par seconde. Parce qu'elles ont un pouvoir de détection de l'image qui est tel que le mouvement devient quelque chose qu'elles détaillent avec une précision absolue. Donc effectivement, quand vous courez après une mouche, elle vous voit au ralenti. Vous êtes en train de courir, etc. Elle vous voit au ralenti. Donc, elles arrivent quand même à éviter bien des choses. Même les vaches avec leur queue, elles n'arrivent pas à tuer toutes les mouches.
C'est pour ça que c'est si difficile de les attraper avec une tapette, en fait.
Alors, la tapette, c'est quand même pas mal. Parce que si vous essayez à la main, votre problème avec la main, c'est que vous pressez sur une colonne d'air. Et donc, très rapidement, elles vont avoir une perception. Il y a quelque chose qui se passe. Donc, elles vont décoller. La tapette laisse passer l'air et vous arrivez quand même une fois sur deux, vous arrivez quand même à l'écraser.
Tout à l'heure, Sarah Diren nous mentionnait ces mouches africaines qu'on avait trouvées sur un corps. C'est-à-dire qu'elles migrent?
Oui, alors c'est une espèce qui est un peu bizarre. Donc on sait qu'elle est autour, elle est circum-méditerranéenne. Et puis c'est vrai qu'on la trouve. Donc durant la bonne saison, les mouches vont monter, elles vont se reproduire et c'est leurs descendants qui vont redescendre en automne et qui, en descendant, vont se reproduire. Et c'est comme ça qu'on a découvert. Et en plus, c'est une mouche qui a un long temps de développement et qui, dans cette affaire-là, avait permis de donner une première fourchette du moment où la personne était décédée.
Ça, c'est en forensique. Mais quelles sont les qualités des mouches? En quoi sont-elles positives? Elles transportent du pollen d'une fleur à une autre.
Mais absolument, les mouches font partie des pollinisateurs. Donc, c'est, évidemment, elles ont une moindre importance que les abeilles. Mais je vous rappelle qu'on a fait une estimation pour l'année 2005 des insectes pollinisateurs à la surface de la planète. Et c'est 153 milliards de dollars. Donc, les mouches interviennent à ce niveau-là comme pollinisateurs. Vous avez des quantités de mouches qui sont très jolies, qui sont ces jolies syrphides, qui sont noires et jaunes, qu'on voit voler sur place, qu'on confond parfois un peu avec des guêpes, qui sont inoffensives. Ces mouches-là jouent un rôle important en tant que pollinisateurs. Et puis bien sûr, les larves de mouches vont se nourrir de pucerons. Donc c'est vrai que si vous avez des pucerons sur vos végétaux, laissez venir ces mouches. Et il faut toujours voir que les larves ont un régime alimentaire souvent qui peut être carnivore ou phytophage. Et quand on est phytophage, ça évite qu'on soit couvert de végétation. Je peux vous dire que s'il n'y avait pas d'insectes, mais ce serait l'horreur pour arriver ici à la radio. À la maison de la radio, on devrait aller au coupe-coupe parce que la végétation aurait tout envahi. Donc, heureusement que ces insectes, dont les mouches, sont phytophages et leurs larves vont se nourrir de végétation.
Elles mordent ou elles piquent?
Alors, de tout. Les larves, en fait, ont des mandibules, donc elles vont mordre. Les adultes vont sucer et, évidemment, certains vont piquer. Et je vous rappelle qu'encore aujourd'hui, c'est bien les moustiques qui sont responsables d'un certain nombre de maladies parasitaires qui sont assez dramatiques sur la surface de la planète, notamment le paludisme.
Dites-moi quelque chose de gentil sur la mouche. Je n'ose pas envoyer de la musique sur ces dernières images.
Alors, ce qui est très, très joli, regardez, prenez le temps, parce que vous avez tous chez vous, de temps en temps, des drosophiles. On vient de parler de leur comportement sexuel. Prenez le temps d'observer ça. À la surface d'un fruit, laissez les fruits quelques jours, un petit peu plus longtemps, et vous verrez, c'est adorable de voir le comportement sexuel de ces mouches. This is not America, sha-la-la-la-la, a little piece of you, a little piece in me will die. This is not America, for this is not America. Blossom fails to bloom this season, promise not to stare too. This is not the miracle. There was a time, a storm that blew so pure. Thought this could be the biggest sky, and I could have the faintest idea. For this is not America. No, this is not sha-la-la-la-la. Snowman melting from the inside, falcon spirals to the ground, the biggest sky, so bloody red tomorrow's clouds. The little piece of you, the little piece of me. The biggest sky, and I.
version originale était écrite et chantée par David Bowie, interprétée par Pat Metheny. Là, c'est Eugénie Alcazar.
Pour télécharger les chroniques et dossiers d'impatience, rendez-vous sur notre page d'accueil impatience.rsr.ch.
Elles évitent les coups de tapette avec dextérité, mais il y a un domaine dans lequel les mouches excellent, Sarah Dirène, c'est celui de la locomotion.
Oui, on l'a entendu tout à l'heure, Daniel Chérix le disait, et elle fascine bien sûr les ingénieurs, notamment Jean-Christophe Dufray, qui est roboticien au laboratoire de systèmes intelligents à l'EPFL. Et Jean-Christophe Dufray crée des robots bio-inspirés, robots volants, donc autonomes. C'est-à-dire qu'ils se débrouillent tout seuls. Lorsque je me suis rendue au laboratoire de systèmes intelligents, il y avait des prototypes devant nous.
Vous avez dû vous baisser.
Non, alors ces prototypes, d'abord peut-être dire que ces prototypes-là fonctionnent. Jean-Christophe Dufray est le premier à avoir fait voler des robots légers qui évitent, autonomes, bio-inspirés, et surtout qui évitaient des obstacles. Alors ces robots n'ont rien à voir avec des mouches. Ça ressemble plutôt... Mais attendez, il y a un lien, vous allez voir. Rien à voir avec des mouches, ça ressemble plutôt à des avions. C'est 60 à 100 fois plus grand qu'une mouche. Alors j'ai demandé à Jean-Christophe Dufray en quoi ces robots avaient quelque chose à voir avec les mouches.
Nous, on s'intéresse à voir comment est-ce que les mouches arrivent à résoudre le problème de l'évitement d'obstacles pour arriver à comprendre quels sont les capteurs qu'elles utilisent, comment est-ce qu'elles traitent cette information sensorielle de leur vision, de leur sens gyroscopique et de leurs poils qui sentent l'air, pour ensuite contrôler leurs ailes et voler, stabiliser leur vol, éviter les obstacles. Pourquoi on s'intéresse à la mouche? C'est essentiellement parce qu'un ingénieur dit classique attaquerait le problème d'une façon complètement différente que ce que font les mouches. Lui, il aurait tendance à dire « je mets plein de lasers et de systèmes qui vont mesurer les distances partout autour de l'avion pour ensuite pouvoir voir où sont les endroits où je peux voler et comme ça planifier une trajectoire et ensuite essayer de contrôler cette trajectoire pour la suivre. » La mouche, elle fait ça de façon complètement différente. Elle réagit de façon très réactive et directe finalement au flux d'informations qui viennent sur ses yeux essentiellement. Et ça lui permet de résoudre le problème, de contrôler donc son vol et d'éviter les obstacles, à un poids qui défie toute concurrence. Il n'y a aucun ingénieur dit classique qui arriverait à le faire à ce poids-là. Donc une mouche, c'est 100 mg. Nous, on n'en est pas encore là, mais on a réussi à résoudre le poids d'un robot volant autonome à 10 g. Si vous imaginez mettre un capteur de distance classique, on serait déjà à au moins 1 kg ou 2 kg. Donc vous voyez qu'on n'arriverait pas, avec une approche classique d'ingénieur, à résoudre le problème de faire voler un système de 10 grammes.
Alors, c'est-à-dire qu'il y a des capteurs, mais il y a avant tout des caméras.
Oui, alors pour nous, une caméra, c'est un capteur. Donc en fait, si on regarde la mouche, elle travaille en utilisant ses yeux, donc la vision. Elle utilise des gyroscopes, ça lui dit à quelle vitesse elle tourne autour de ses différents axes de rotation. Et elle utilise ses poils qui lui permettent de sentir à quelle vitesse l'air se déplace autour de son corps. Alors, ces trois modalités sensorielles qui sont reproduites sur notre avion de 10 grammes, on a des caméras qui remplacent les yeux de la mouche. D'ailleurs, c'est des caméras qui sont intéressantes parce qu'elles ne donnent pas du tout une image comme on s'imagine d'une caméra normale à la télé. Elles donnent seulement 60 pixels, donc c'est rien du tout, c'est du noir et blanc. C'est des gros pixels qui voient assez troubles, mais qui sont capables d'intégrer l'information très rapidement, comme le fait la mouche. La mouche voit assez trouble son environnement. Par contre, elle est capable de sentir des changements très rapides sur sa rétine. Donc on a reproduit ça. Ensuite, les capteurs gyroscopiques de la mouche ont été traduits vers un capteur gyroscopique d'ingénieur. Ça, c'est des piezos en fait, qui sont utilisés. Et les poils ont été remplacés par une hélice en papier qui va donner la vitesse de l'air autour de l'avion. Et donc ça nous permet d'ensuite piloter complètement l'avion de façon autonome.
Comment s'est déroulé le travail de collaboration, Jean-Christophe Dufray, avec les biologistes? Ils vous ont donné les informations, vous leur avez demandé de tester certaines choses sur la mouche?
Bon, au début, quand on est ingénieur, on commence par lire beaucoup de choses. J'ai passé beaucoup de temps durant ma thèse à essayer de comprendre qu'est-ce que les biologistes savaient du fonctionnement des mouches. Parce que, en tant qu'ingénieur, on se dit c'est très frustrant. Une mouche, elle fonctionne très bien, elle sait faire tout ce qu'on veut faire avec un avion, mais on ne sait pas exactement comment elle le fait et comment est-ce qu'on peut le transcrire en système artificiel. Donc, une fois qu'on a digéré tout ça, on peut voir à peu près où en sont les biologistes dans leur compréhension du système. Et puis à partir de là, ça devient intéressant d'établir des liens un peu plus personnels avec eux, puis de commencer à dire, mais j'ai ce problème-là spécifique avec un système volant. Est-ce que vous savez comment les abeilles ou les mouches font pour résoudre ça? C'est d'autant plus intéressant que les biologistes publient des choses que dans les domaines là où ils sont sûrs d'avoir une réponse. Donc en général, ils ont plein de choses qu'ils sentent, qu'ils ont l'impression de savoir, mais qu'ils n'osent pas publier parce qu'ils n'ont pas assez de données à l'appui. Alors typiquement, il y a une chose qui est absolument fascinante pour nous autres roboticiens de systèmes volants, c'est d'essayer de comprendre comment font les mouches et en particulier les abeilles pour stabiliser leur regard de façon totale. Donc si on regarde une mouche filmée de très près avec une caméra qui permet de le faire et qu'on arrive à le reproduire en ralenti, on va voir que sa tête, elle est la tête de la mouche ou de l'abeille est complètement stable et le corps travaille beaucoup pour contrer les perturbations, etc. Donc une des grandes questions, c'est comment on fait la mouche pour arriver à garder sa tête complètement stable. Et ça c'est vraiment une question ouverte maintenant. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à travers le monde, il y a d'autres labos qui s'intéressent. Nous, on s'intéresse vraiment à la loi de contrôle, à savoir comment faire les capteurs et comment contrôler ce système. Il y a d'autres labos qui s'intéressent à comment développer une mouche micromécanique. Donc là, ils vont regarder comment est-ce qu'on peut intégrer un actuateur qui permet de faire battre des ailes, tout ça à la taille d'une mouche. Et là, on commence à avoir des gens, pas plus tard que l'année passée, en fin de l'année passée, qui ont réussi à faire voler une mouche artificielle avec deux ailes, sauf qu'elle était reliée au sol par des fils électriques pour l'alimenter en énergie, et en plus elle était guidée dans son vol pour pas avoir besoin de la contrôler justement. Donc c'est pas des systèmes autonomes à l'heure actuelle, mais on a des systèmes qui font le bruit d'une mouche, vraiment j'en ai vu un battre ses ailes, ça fait le zzz des mouches, et qui reproduit le mouvement des ailes, assez compliqué, le mouvement des ailes des mouches, pour pouvoir générer une portance et donc voler à terme. On est loin d'un système complètement autonome qui va venir dans vos maisons, vous êtes pillés, là je pense qu'on a encore peut-être 50 ans à travailler au moins pour y arriver.
Ça laisse rêver, Sarah Diren. Merci à Jean-Christophe Zuffray. Pour en savoir plus, un livre qui va sortir.
Qui va sortir début 2009, qui sera écrit par des biologistes et par des ingénieurs, des roboticiens également, autour du vol des insectes et notamment de la mouche, bien sûr.
Daniel Chéric, ça vous passionne, ce genre de robotisation de la mouche, ces sources d'inspiration?
Absolument, parce qu'en enfer, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on doit toujours simplifier. On part d'un système hyper complexe qui est celui qu'on va trouver chez l'insecte. On le simplifie et en le simplifiant, on découvre passablement des manières de fonctionnement. Donc, on comprend de petit à petit le fonctionnement. Et quand on pense que l'aile de la mouche va se tordre, en fait, il n'y a pas de volet ni de gouvernail, mais elle se tord dans l'espace et permet justement ces acrobaties incroyables.
Elles battent des ailes de façon différente d'autres insectes parce qu'apparemment, ça semblait inspirer la robotique.
Oui, c'est que les ailes battent, bon, évidemment, très vite, puisqu'on est de l'ordre de 400-500, leur corps, c'est plus de 1000 battements par seconde. Donc, imaginez bien qu'à ce moment-là, on a des problèmes de déformation, on a des problèmes incroyables, et grâce à ça, on arrive quand même à se déplacer dans l'espace. Moi, je trouve absolument génial. Je suis admiratif.
Mmh. Pour le livre concernant la forensique.
Oh, le traité d'entomologie forensique, c'est une mine. Hein. Les insectes sur la scène de crime, c'est signé Claude Viss et notre invité, Daniel Chéric, et c'est paru aux presses polytechniques et universitaires romandes.
Avant de se quitter et d'entendre le clin d'œil de nos agents de la phonothèque, Daniel Chéric, dernière question. Est-ce que la mouche pourrait exister sans nous? Est-ce qu'elle dépend de nous? Et est-ce que nous, si elle n'existait plus, on pourrait vivre sans elle?
Alors disons qu'elle s'est déjà bien passée de nous pendant les millions d'années où elle était présente sur Terre. Et puis en plus, je pense qu'elle va bien se passer de nous. Nous, on pourrait s'en passer un petit peu, mais on aura quand même quelques petits soucis. Il faudrait bien que d'autres insectes prennent sa place. Rassurez-vous, elles vont rester.
Mais on a besoin d'elles.
Oui, on a besoin des mouches, hein, immanquablement. Parce qu'imaginez, il faudrait enjamber les cadavres dans la forêt parce que rien ne serait éliminé, alors que vous voyez très très rarement un cadavre d'animal dans une forêt.
Par contre, bien après nous, bien avant nous, il était une forêt. Ouais, il sera toujours
la mouche.
suce de mouche posée sur sa bouche. Elle était nue, on aurait cru le paradis, tant elle était jolie. Je suis une mouche posée là sur sa bouche. Je n'avais Dieu que pour elle, mais elle voulait que je me tire à tire d'elle sur ses lèvres. J'avais décidé de ne plus jamais m'envoler sur ses lèvres. J'avais décidé de ne plus jamais m'en aller. Mais que fait donc cette mouche posée là sur ma bouche? Demanda-t-elle au peintre qui lui dit comment c'est joli de voir cette mouche dessinée sur ta bouche. Et moi j'aurais tout donné, oui tout donné, pour pouvoir l'embrasser.
Voilà, vous l'avez reconnu, Daniel Lecheix.
Oui, Michel Polnareff.
Michel Polnareff, c'était le clin d'œil de nos agents de la phonothèque. Vous avez l'habitude d'entendre ces morceaux de fin, ils vous plaisent, ces clins d'œil?
J'adore, j'essaie de savoir lesquels vont arriver, mais c'est difficile.
C'est les trésors qui sont vraiment dans les caves de la radio suisse romande.